Ça s'est calmé un peu aux États-Unis au niveau des manifestations en lien avec la mort atroce de George Floyd. Non, il y en a eu encore, là.
Ah oh, oui, c'est pas fini.
Mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle qu'il y ait moins de violence, qu'il y ait des manifestations pacifiques. C'est bien correct. Mais j'ai l'impression qu'il y en a eu un peu moins au niveau du grabuge. Mais évidemment, ça fait jaser encore beaucoup. Ramenons ça ici un peu. OK, ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, on garde un œil ouvert là-dessus, mais j'aimerais ça parler du Québec, moi. J'aimerais même mieux parler de la ville de Québec. Là, il y a un débat qui est parti, puis je vais volontairement le mettre de côté un petit peu. Parce que là, il y a deux écoles de pensée. On en a même débattu hier en ondes avec Jean Simon, c'est bien correct. Mm-hmm. Justin Trudeau qui lui dit qu'il y a du racisme systémique au Canada. Il n'est pas le seul à penser ça. Puis il y a François Legault qui dit non, il n'y a pas de racisme systémique. Puis là, on joue un peu ses mots, puis on s'astine. Mais on oublie peut-être, pendant qu'on fait ça, c'est sûr que les divisions, c'est toujours payante, là. C'est quand t'as deux opinions différentes, ça devient intéressant. Mais on oublie peut-être de dire que et Trudeau et Legault reconnaissent qu'il y a du racisme ici. Tu sais, François Legault, il est un peu critiqué par certains, mais il l'a reconnu, là. Puis qu'il y avait du travail à faire, puis qu'il faut pas lâcher. C'est pas comme les États-Unis. C'est pas pareil. C'est pas la même situation. Beaucoup le rappellent, mais il y en a pareil. Alors, j'ai décidé de ramener ça un peu à la ville de Québec. Est-ce qu'il y a du racisme dans la ville de Québec? La réponse est sûre que c'est oui. Maintenant, à quel niveau? Où? Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ça? On va se servir de certains témoignages qu'on a reçus hier, notamment par texto. Il y en a d'autres qui ont commencé un peu, j'ai vu ça sur Facebook, il y en a qui c'est à Montréal, il y en a qui c'est ici, qui dénoncent des situations. Moi, je trouve ça bien de dénoncer. Jean-Simon, t'as parlé à qui?
Ouais, c'est hier, pendant notre débat, justement, Sylvain, que Marco nous a écrit, c'est pas son vrai nom, il voulait pas donner son vrai prénom, et il nous a écrit parce qu'il se sentait interpellé par ça, et lui, il en vit au quotidien. C'est un Afro-Québécois qui ça donne conduit une Mercedes de l'année, tout simplement. Alors, je vous invite à écouter ce que Marco, qui est donc un homme noir de Québec, a vécu à plusieurs reprises via des interpellations.
Moi, ça m'est arrivé souvent, même très souvent, le char de chez moi ou n'importe quoi. Oui, effectivement, j'ai une auto là, quand même de l'ex. Souvent, je me fais intercepter. Le profilage, surtout, là, qu'on voit, là, si je fais arrêter parce que je traversais la rue sur une lumière rouge, puis c'est des choses qui peuvent arriver.
Fréquemment, il l'a dit, 3-4 fois par année au volant de ma voiture. Ça rejoint ce que Félix
Auger... Il se fait arrêter sans raison, interpeller, tout ça. Il est afro-québécois, ouais. Il a une voiture de luxe, puis il se fait arrêter sans raison par la police. Ça devient tannant.
Ça rejoint ce que Félix Auger Yassim racontait à propos de son père, qui lui aussi conduit une belle voiture, puis qu'à un moment donné, il s'était fait arrêter par une policière qui avait dit « Désolé, monsieur, on n'est pas habitué de voir un noir conduire une voiture de ce modèle-là. » Alors, c'est des choses qui arrivent au Québec. Alors, c'est un autre exemple.
Ça, c'est un préjugé raciste. C'est comme si, tu vois un noir, voiture de luxe, ça marche pas. Comment ça, ça marche pas? Pourquoi? C'est ça. Il y en a d'autres un peu. Ils commencent à en avoir pas mal de ces témoignages-là. Je pense qu'il faut en être conscient. Mm-hmm. Il faut en parler. Tu as le journaliste de sport à TVA, Andy. Oui, j'avais un blanc, je suis vraiment désolé. Moi, des fois, ma mémoire, vous le savez. Il raconte que à Longueuil, il s'est fait interpeller beaucoup, puis il donne les phrases un peu, là. C'est quoi tu fais ici? Pourquoi tu te promènes? T'es avec qui? T'arrives de où? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis jamais fait demander ça, moi.
Ben non.
Moi, là, des policiers, j'en croise comme tout le monde, là. Il n'y a jamais un qui m'a arrêté pour dire « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Yeah. »« Montre-moi tes papiers, qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, une fois, c'est tel que tel, mais là, selon ce que Andy disait, il dit souvent, à Longueuil, il se promène, il y a un beau char ou je sais pas quoi, puis il se fait arrêter, puis il se fait poser ces questions-là.
Il s'est dirigé visiblement vers les Noirs, puis tu sais, j'entendais beaucoup d'Afro-Québécois témoigner, puis qui disaient, tu sais, moi, je peux pas me promener avec un chandail à capuchon puis une calotte à l'envers. Là. Moi, je me promène tout le temps de même, puis je suis une minorité visible, puis j'ai jamais été interpellé pour quoi que ce soit. Fait qu'il y a vraiment des espèces de préjugés contre les Noirs, malheureusement. Marco nous raconte aussi que compte tenu de ces interventions-là, des fois, il y a sa petite fille qui est dans l'auto quand il se fait interpeller. Comment t'expliques à une petite fille entre 5 et 10 ans pourquoi la police arrête papa tout le temps? On l'écoute.
Mais c'est toujours là d'avoir un renforcement politique, c'est-à-dire que bon, ils font leur travail et tout. Mais là, on dit là, quasiment est à 10 ans, alors elle est capable là, elle-même là, de voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Là. Elle a déjà une appréhension. Là. Son subconscient lui a déjà. C'est pas une synonyme là, de sécurité nécessairement là, quand on voit la police. Là. C'est souvent synonyme de questionnement plus que d'autres choses.
Fait qu'elle est déjà marquée par ça.
Elle voit son papa que la police interpelle alors qu'il n'a rien fait pour lui poser. OK, là, vous allez dire, c'est quand même pas, là, ils sont pas en train de le battre. Non, non, je sais, mais c'est quand même stressant. La police arrête. Imaginez-vous, là, mettez-vous dans la peau un peu de l'enfant qui voit son père, puis la police est là, puis il pose des questions. Puis c'est pas arrivé une fois, là. Puis si c'est arrivé une fois, tu peux dire, c'est anecdotique, s'il y avait peut-être une enquête à ce moment-là, puis, je sais pas, moi, le char correspondait à un véhicule suspect. Tu sais, une fois, c'est une fois. Mais selon ce que Andy disait, selon ce que Marco, notre auditeur, dit, c'est pas une fois, là. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Ça commence à faire beaucoup.
Et qu'est-ce que tu dis à ton enfant? C'est surtout ça, mais parce ça. Que...
Il est pas capable.
Ben, il essaie de faire du renforcement positif.
Je veux bien, mais...
Je sais pas ce que tu dis.
Tu sais que tu dis quoi? Au fur et à mesure, je veux bien croire que tu fais du renforcement positif, mais rendu à un certain point, je veux dire, l'enfant est capable d'avoir moindrement du jot.
Je pense qu'il faut que tu commences à y parler de racisme.
Ouais.
Faut que tu commences à... Je dis ça, là, j'ai pas de conseils à donner, là, garde là-dessus, mais faut peut-être que tu commences à dire, garde, mais en le faisant correctement, regarde, c'est pas tous les policiers, loin de là, c'est pas tout le Québec. Le Québec est pas raciste, on est une société d'accueil ouverte. Faut pas que t'en veuilles à tous les policiers, c'est plein de bons policiers, mais malheureusement, puis dans ta vie, ça se peut que t'en rencontres d'autres, tu vois. Peut-être que ces policiers-là, ils ont des préjugés racistes. Fait que là, ils m'arrêtent à cause de ça, à tout bout de champ, parce que j'ai un beau char. Peut-être, regarde... Parce que vous avez posé la question, là, j'ai pas de leçon à donner, mais c'est peut-être un genre de réponse à donner. Pas tomber dans la généralisation, pas répondre à la haine, puis à tout ça par d'autres gestes haineux et violents, mais faut essayer d'expliquer. Si vous avez meilleur que moi, allez-y.
Il y a quelqu'un qui écrit au 25226. Mm-hmm. Quand même, un texto est éloquent. Oui, je suis latino. Je suis propriétaire d'une compagnie de construction et je me fais toujours prendre pour un employé, jamais comme patron. Même si ça m'est arrivé que des clients parlent le plus et posent des questions importantes plutôt à mes employés plutôt qu'à moi. Je ne suis pas noir, mais par contre, j'ai un accent quand je parle. Je trouve ça triste.
Ouais, là, il y a des préjugés. Des préjugés encore, malheureusement, dans la société. Donc ça, ça arrive à Québec. Marco, c'est à Québec, là.
Oui, c'est un gars de Québec.
C'est pas à Montréal, c'est pas à New York, là, c'est ici. Alors évidemment que quand on voit ce qui se passe avec George Floyd, moi je vous l'ai dit que j'ai tout regardé ça, puis j'écoutais Steph un matin qui l'a vu aussi récemment, puis en parlait, tu sais, ça nous touche, c'est épouvantable. Mais moi j'ai trouvé ça, là. Marco, quand il voit ça, ça doit le toucher encore plus.
Non, c'est clair.
C'est pas des arrestations comme ça qu'il a vécu à Québec. Là. À Québec, c'est pas ça. Mais le fait que la police l'interpelle souvent puis est victime de ces préjugés racistes-là, quand il voit ça, ça doit prendre une autre dimension pour lui. Merci, Jean-Simon.
Veux-tu qu'on parle un peu de la chronique de Mylène Moisan?
Ah oui, tu voulais. Oui, oui. Vas-y, on a
parce
le temps.
Je pense
encore.
Que ça aussi, c'est assez éloquent. Ouais.
Vas-y, puis c'est Québec aussi. Moi, je voulais qu'on fasse ça sur Québec aujourd'hui. En passant, 25226. Vous avez des choses à dénoncer, là. Là, pas besoin. Je lis pas toujours les textos, mais pas besoin de m'écrire. Hey, Butch, c'est pas tout le monde. Fais attention, le Québec. Je l'ai dit, là. On l'a dit, ça. Mais des fois, chez certains, j'ai l'impression que c'est un genre de bouclier qui nous envoie pour dire, hey, ferme ta gueule, là. Non, non. On peut dénoncer le racisme, là, tout en reconnaissant que c'est pas tout le monde, c'est pas toute la société. Vous le savez, on fait toujours la nuance. Mais si vous en avez des exemples, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans les minorités visibles, à Québec, on est chanceux. Moi, je le répète, c'est pas les States. On n'a pas le même historique, on n'a pas le même passé. On est une société d'accueil ouverte, mais ça existe. Il y en a, puis il faut le dénoncer, 25226. Mylène Moisan, qu'est-ce qu'elle a écrit?
Oui, la chronique de Mylène Moisan s'intitule « Le téléphone de Mamadou sonne moins ». Et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu un test qu'on a fait, évidemment, bon, de façon empirique, là, à la radio, il y a à peu près 2 ans, où est-ce qu'on a envoyé des CV avec différents noms à différentes entreprises de Québec. Or, là, c'est un étudiant au doctorat en sociologie qui s'appelle Jean-Philippe Beauregard, à l'Université Laval, et qui a voulu faire le test en ayant différentes identités, différentes personnes ayant des CV très comparables, mais ayant des noms différents, avec des consonances ethniques différentes. Donc, il a créé 7 candidats fictifs, dont un gars qui s'appelait Marc-Olivier Tremblay, donc ça sonne assez Saint-Georges-de-Beauce au Québec, là, et un gars qui s'appelait Mamadou Traoré, qui sonne extrêmement africain. Ça sonne vraiment gars qui vient immigrant africain, par exemple. Là, on aurait ce type de nom-là en tête. Or, tout le monde dans son groupe a eu un diplôme, un curriculum vitae, avec à peu près le même contenu. Pas pareil, pas copier-coller, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse le recoupement, mais vraiment beaucoup de diplômes, de l'expérience dans les jobs qui ont été visés. Et après ça, il a envoyé les CV de Mamadou, de Marc-Olivier, mais aussi de Carlos Maria Latifa Abdallah et Aminata à 523 entreprises à Québec et à Lévis entre janvier et juillet 2018 avec lettre de présentation et CV. Marc-Olivier étant évidemment le candidat de référence, les autres étant les candidats de comparaison provenant de différents groupes ethniques.
Alors, nous autres, on l'a fait avec nos moyens, là. On en avait 4, je pense. Lui, il l'a fait, mais ça a quand même donné de quoi d'intéressant. Ça avait fait jaser. Lui, il l'a fait avec 500. Alors, c'est beaucoup plus rigoureux et scientifique que nous.
Absolument. Alors, lui, il voulait tester à la fois, bon, est-ce qu'effectivement le Québécois pur laine, entre guillemets, va recevoir plus d'offres d'emploi, mais aussi, y a-t-il une différence entre les différents groupes ethniques? C'est vraiment fascinant. Ben, c'est un peu déprimant aussi, là, mais c'est fascinant, les résultats. D'abord, d'entrée de jeu, celui qui en a eu le plus, évidemment, ben, c'est Marc-Olivier. Celui qui en a eu le moins, ben, c'est Mamadou Traoré, qui en a eu, en fait, 3 fois moins que Marc-Olivier. Il s'est fait rappeler 3 fois moins que Marc-Olivier.
Avec avec les mêmes compétences, le même CV,
même
de
affaire.
Façon tout à fait comparable.
Même affaire, exactement. Et entre les deux, bizarrement, c'est ce qu'il a constaté dans sa soutenance de thèse de doctorat, il dit il y a une espèce d'échelle, une hiérarchie ethnique comme un escalier dans lequel vous partez avec l'homme blanc qui a toutes les portes ouvertes et vous terminez en bas de l'escalier avec l'homme noir qui n'a pratiquement rien. Et entre les deux, la femme latino, l'homme arabe et ainsi de suite, c'est vraiment, vraiment curieux comme phénomène. Mais visiblement, l'homme noir, il y a quelque chose, probablement des préjugés, il appelle ça des préjugés inconscients là, dans son cas, dans sa soutenance de thèse, quelque chose dans notre inconscient qui fait en sorte qu'il y a moins de confiance envers un homme noir qu'un homme avec une consonance ethnique africaine.
Alors, il y a du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Puis chez nous aussi, pas juste, tu sais, quand on dit « Ah, mais c'est mieux ici qu'aux États-Unis. » Moi, je pense qu'on a raison, mais faut pas se dire ça pour se dédouaner puis dire « Ah, donc, nous autres, c'est correct. Tout est beau, c'est un problème des Américains, c'est pas chez nous. » C'est chez nous, peut-être pas au même niveau, peut-être pas la même ampleur, tant mieux, il faut le dire de temps en temps, mais il y a définitivement, et ça, et Legault et Trudeau sont d'accord là-dedans, il y a pas de débat à faire, il y a du travail à faire chez nous aussi. Malheureusement.
Il y a peut-être un test.
Il y en aura en passant. Il va en avoir, je ne sais pas si un jour on va vivre dans un monde où, tu sais, il va en avoir toujours un peu. Fait qu'il faut en parler et il faut combattre ça.
Mais ce qui aide beaucoup, vas-y, Marie-France, avant.
Un test aussi qui pourrait être fait, là, peut-être dans les prochaines journées, prochaines semaines, c'est que là, on parlait de candidats qui avaient des compétences égales. Moi, ce que je serais curieuse de faire, par exemple, c'est un curriculum vitae, par exemple, avec un nom, mettons Marie-France Poulain. J'ai de l'expérience, mais avec un nom qui a consonance, par exemple, africaine, comme dans ce test-là, mais avec plus d'expérience.
Oh, le fait. Test qu'on a fait il y a 2 ans.
Je pensais que c'est vraiment capacité égale.
Il y avait Mohamed qui avait un gros CV. Là. Il y avait pas mal.
Ah, ouais,
il était comparable à un autre gars qui était comme notre référent type. Puis après que ça, il y avait un assisté social depuis 20 ans qui faisait 46 fautes à la ligne. Il y avait une jeune de 14 ans. Puis il y avait un ex-prisonnier. Et tous ces gens-là ont eu plus de rappels que Mohamed dans notre expérience maison, qui évidemment n'est pas exactement la même. Pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur le racisme, va toujours rester. Je mets un bémol parce que tu sais, moi quand même de l'espoir. Tu sais, moi, tu sais quand
ça baisse, non mais ça
baisse beaucoup.
Ça baisse,
ah, c'est énormément.
En parle plus, moi aussi, mais il va en rester. Il y en a partout. Il faut saisir le problème comme faut. Il faut pas tomber dans. Évidemment, c'est arrivé aux États-Unis, là.
Oui.
Mais j'ai entendu ici et là, il y en a qui soulignent que ça va mieux ici. C'est correct, mais de dire ça, c'est quand même vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui tentent à isoler le phénomène aux États-Unis, tu sais. Ah, on n'a pas besoin de parler. Arrête, Butch, de nous parler du racisme. C'est aux States, puis bon, on vient de le démontrer, puis moi, je le crois, c'est ici aussi, mais c'est partout. Il y en a ailleurs aussi. Allez voir, en Asie, il y a du racisme, là. Il y a encore des pays au Japon, dans des certains pays asiatiques.
Ah, en Asie, énormément.
On m'a compté des affaires. Il y a du racisme. En Afrique, il y a du racisme.
Ben, en fait, toute société dominante, généralement, a tendance à discriminer les minorités. Là.
À l'intérieur même de certaines communautés noires, il peut y avoir une forme de racisme. C'est-à-dire, comment il peut... Ben, par exemple, je sais pas, moi, à Montréal, il y a des rivalités. Pas entre toutes, là. Mais entre les communautés jamaïcaines et haïtiennes, ça se passe pas toujours bien, en passant. Il y a des conflits, là. Est-ce que le mot racisme, c'est le bon mot? Parce que là, mais tu sais, si mettons, on parle d'intolérance envers des minorités, on parle de jugement par rapport à la couleur, à la nationalité, à l'ethnie, ben, c'est pas juste aux États-Unis, là.
Absolument.
Ça, si on veut vraiment le combattre, il faut le dénoncer quand c'est dans sa cour. Faut pas avoir peur de le dénoncer, même dans l'Amérique de Donald Trump, que certains trouvent que c'est merveilleux. Non, non, non. Regardez ce qui se passe. Mais il y en a ailleurs aussi.
À l'argument qui est envoyé au 25-226 de beaucoup de gens, pourquoi aux États-Unis, par exemple, à la criminalité, les Noirs sont surreprésentés? Ça tombe bien que vous posiez la question. Parce qu'il y a un excellent article du New York Times qui est paru ce matin sur, justement, des chiffres épouvantables. Et le titre que je vous traduis en français, c'est « Quand la prison devient normale ». Et là-dedans, on apprend qu'il y a bon an mal an à peu près près 10 % des hommes en âge de travailler chez les Noirs aux États-Unis qui sont en prison. Puis quand tu compares avec tous les autres groupes ethniques, c'est excessivement surreprésenté. On apprend aussi que dans les dernières années, bon an mal an, 27 % des hommes en âge de travailler, donc en pleine force de l'âge, des Afro-Américains, n'avaient rien déclaré dans leur déclaration de revenus. Pas un sou noir. Donc la réponse est très claire à votre question. Pourquoi les Noirs sont surreprésentés dans les prisons et dans les crimes? Quand tu as moins d'opportunités dans la vie, quand tu as moins d'argent, quand tu es plus pauvre, tu te tournes vers quoi souvent? Vers le crime.
Ouais, mais que les soit blanc, noir, jaune, orange. Le seul bout où tout ce que tu as dit là est vrai, Jean-Simon, puis ça repose sur des chiffres. Mais quand tu dis la réponse est claire, c'est juste là que je suis pas d'accord.
Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
Elle n'est pas claire.
Ouais.
Si tu lis, moi j'ai lu beaucoup sur la violence avec Steven Pinker notamment, qui a écrit un ouvrage d'à peu près 1000 pages là. Puis je veux pas rentrer là-dedans parce que ça serait injuste. Il faudrait que j'en parle pendant une heure pour donner toutes les nuances. Mmh. Mais il s'est beaucoup penché. Pinker est loin d'être raciste, pas pantoute, mais il s'est énormément penché pendant des centaines de pages sur la violence notamment chez la communauté noire aux États-Unis. Et c'est complexe. Faudrait juste que je dise ça, c'est complexe, là. OK? Mais ça a rapport avec l'histoire, ça a rapport avec le passé, ça a rapport avec les conditions socio-économiques. Ce que tu viens de dire, ça rentre là-dedans, là. Je veux pas nier ça. Mais c'est complexe. Mais à ça, moi, je réponds. Anyway, George Floyd, à moins que je ne m'abuse, il y avait un casier criminel, là, c'est sorti, là. Mm-hmm. C'est, je crois qu'il a fait.
Je retrouve Sylvain un peu.
Il a-tu fait 5 ans? Je me souviens pas, puis je veux pas dire de quoi, là, compte tenu du contexte, là. Mais j'ai entendu, mais c'est sur Facebook, là, Facebook. C'est sur les médias sociaux via des médias français. Mais je pense que
5 ans de prison, effectivement, dans le monde, là. Ouais.
Bon, il a fait 5 ans de prison. Mais est-ce que là, je sais, il y a des gens qui regardent, qui viennent de parler de la violence dans la criminalité de la communauté noire. On vient de dire que c'est une réponse complexe. Jean-Simon a donné de bons éléments. Il y en a d'autres aussi. Mais même ça, moi, je trouve que dans le débat, c'est plus ou moins pertinent, Jean-Simon. Ramenez-nous les images.
Ouais.
Quand ben même que c'est un gars avec un passé criminel, quand ben même qu'il était drogué, apparemment qu'il prenait de la drogue, fentanyl, c'est sorti aussi, ça, il y avait des problèmes de consommation, c'est sorti aussi. Mm-hmm. Rajoutez-en tant que vous voulez, il mérite toujours pas ça.
Absolument.
C'est encore un acte aussi épouvantable. Moi, ça fait pas diminuer d'un iota la réaction de colère que j'ai eue quand j'ai vu ça, malgré tout ça. Fait que c'est... On peut en parler de ça, là. Le problème de la criminalité surélevée chez les Noirs américains, c'est un problème. On peut discuter de ça, donner des réponses le plus nuancées, puis donner le contexte, comment on l'a fait. Mais je trouve pas que... J'écoutais des débats, puis il y en a qui parlent quasiment juste de ça, là. Là, à un moment donné, tu parles quasiment plus du policier blanc raciste, là. Mm. Là, c'est une façon de détourner, là. On est rendu ailleurs, là. On est rendu à parler... Je trouve que ça revient à faire ce qu'on fait parfois dans certains tribunaux, dans certains, notamment dans des causes peut-être d'agression sexuelle. Si on fait le procès de la victime, je sais pas si ma comparaison...
Je pense qu'elle est bonne, là.
Ouais. Tu sais, des fois, on a souvent dénoncé ça, que c'est souvent les femmes qui portent plainte pour agression sexuelle, ils arrivent au tribunal, mais c'est le procès à eux autres.
Ah oui.
Au lieu de l'agresseur. Là, ça devrait être le débat... sur le policier blanc raciste de Minneapolis, là, parce que le gars George Floyd, moi, qu'importe son passé, là, cette journée-là, il avait apparemment passé $20 de contrefaçon, ce qui est un crime. Bah, on sait même pas si c'est un crime, est-ce qu'il était conscient que c'était un 20 de contrefaçon?
Même là, c'est un disminué.
Ah, ouais, voyons donc. Hey, puis je vous l'ai dit, j'ai parlé à plein de commerçants à Québec. D'après moi, vous n'avez eu de la monnaie de contrefaçon à un moment donné. Ça se peut-tu? Puis qu'on le sait pas. Hey, ça circule. Il y en a circulé pas à peu près, là. Dans le temps, l'instant, c'est rendu plus touché parce que, apparemment, que c'est très difficile de copier puis d'imiter la nouvelle monnaie, là. Mais dans le temps, là, ça se faisait. On en a peut-être eu. Mais qu'importe. Encore là, mettons que c'est pas ça son crime, mettons que c'est autre chose. Ça ne mérite pas une exécution en public froidement à quatre comme ça.
Et en passant, les trois collègues de Derek Chauvin, le principal accusé dans l'affaire, là, qui était accusé de meurtre en prémédité, vont être également accusés. Ça a été annoncé.
Ouais, c'était long un peu, ça. Hein? Ouais. Bon, ben peut-être que ça va, j'espère, calmer un peu la colère. Je veux pas dire la colère envers le racisme, mais elle va continuer. Il faut qu'on soit en colère. Mais là, je parle un peu du grabuge. Il y avait des excès. Peut-être que là, ça va amener des gens à continuer à manifester pacifiquement, parce que ça, on l'entendait beaucoup. Mais ça se fait que les trois autres sont encore en liberté. Ils n'ont pas été arrêtés ou accusés. C'est fait maintenant.
Voilà.
Bon, tant mieux. 15h53 au FM 93. Vous avez d'autres choses à ajouter? 25226. J'ouvre une porte aussi, hein. Tu sais, on dit aux gens, si vous avez de quoi à dénoncer, souvent tu vas dénoncer les autres. Soit que tu as dénoncé, quelqu'un pourrait nous écrire en disant, ouais. Oui, moi j'ai été victime de racisme à Québec ou j'ai été témoin de racisme à Québec. On a jasé avec Charles Auger hier, il nous a conté de quoi. Il est dans la file d'attente au IGA. On donne des consignes en français, puis il y en a un qui lève la main, il comprend pas le français. Alors, il vient d'ailleurs, fort probablement. Il nous a pas trop donné de détails, mais vous comprenez. Ben, le gars se force, le commis avec son anglais, puis il donne les consignes de sécurité, puis il y a un épais qui se met à crier. On devrait juste laisser rentrer les gens qui parlent français, ça. Hein? Eux autres, on devrait sacrer dehors. Bon. Alors, c'est correct que Charles, honnêtement, avec courage, non seulement il a dénoncé à la radio, mais il a dit en pleine face. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes capable, ça demande de l'introspection, je sais que c'est touché, pas besoin de vous nommer, mais si vous avez déjà eu un comportement raciste, pas à l'excès, là, tu sais, mais un préjugé, là, parce que c'est bien beau parler des autres puis des autres, mais ça peut, il y a personne de parfait, là. Des préjugés, on peut en avoir des fois. Ouais. Si vous êtes une bonne personne, vous allez vous parler, vous allez vous raisonner, vous allez mettre ça de côté, puis vous allez... Mais si vous en avez, il y a moyen d'écrire. Alors, 25-226.